journée spéciale De Gaulle 2020.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, en cette journée spéciale De Gaulle sur Inter, dans Un jour dans le monde, c'est le De Gaulle de l'Algérie qui nous intéresse. Le De Gaulle qui arrive en 58 après le putsch d'Alger. Le De Gaulle de 4 ans de guerre supplémentaire et des accords d'Évian. Qu'est-ce que l'Algérie en garde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a conservé ou totalement dilué? Que disent les jeunes, ceux du Irak notamment, de De Gaulle? Nous y viendrons dans un instant avec l'historienne Malika Rahal. Le bruit du monde est à Dakar qui voudrait déconfiner d'urgence son tourisme notamment. Nous prendrons aussi des nouvelles de Clémence que nous avons laissé hier bloquée par le virus au nord de l'Argentine. Stoppée dans son élan pendant son périple à vélo de 8000 km, elle l'a confié à Caroline Gillet, son journal sonore. François Bunel nous parlera des enfants, ses causes perdues de la crise migratoire aux États-Unis. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, qui a un rapport sous les yeux passionnant du Haut-Commissariat aux réfugiés. Vous verrez que les réfugiés sont de plus en plus nombreux et ils ne rentrent pas chez eux. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Bonsoir Malika Rahal.
Bonsoir.
Vous êtes historienne chargée de recherche à l'Institut du Temps Présent. Vous êtes spécialiste de l'histoire algérienne depuis l'indépendance notamment. Malika Rahal, où est De Gaulle au fond dans l'histoire algérienne? Est-ce que c'est le visage de la fin de la guerre ou le visage de la guerre? Est-ce que c'est l'homme de 4 ans de guerre après son arrivée ou l'homme des accords d'Évian?
Alors c'est vraiment assez différent selon les générations, je pense. Mais pour les générations qui ont vécu la guerre, c'est vraiment le visage de la guerre et c'est le visage de la guerre la plus dure. Si vous parlez par exemple avec des anciens combattants, ça arrive de temps en temps qu'ils vous disent « la guerre, c'est De Gaulle ». C'est-à-dire que les années de la guerre la plus dure ont été ces années De Gaulle. Et on n'a pas du tout l'idée qu'on a parfois en France que De Gaulle aurait donné l'indépendance ou qu'il aurait fait cadeau de l'indépendance aux Algériens. On a vraiment l'idée de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir finalement assez tôt dans le conflit et qui a repoussé les négociations jusqu'à très tard.
Parce qu'on lui prête des propos qui datent d'ailleurs de 44, donc pendant la guerre, disant que tout cela finira de toute façon par l'indépendance. Or, en arrivant en juin 58, on se souvient qu'il dit « Vive l'Algérie française ». Donc au fond, aux yeux de l'Algérie, est-ce que c'est à l'opinion française qu'il a menti ou à l'Algérie, ou au fond, est-ce qu'il s'est trompé lui-même? Mais comment on vit cette espèce de paradoxe?
Au fond, je crois que la question, finalement, elle n'est pas très importante de savoir ce qu'il pensait ou ce qu'il pouvait dire. C'était la question de ce qu'il faisait. Et lorsqu'il était à Alger pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez troublant avec le recul, c'est à quel point la question coloniale ne lui apparaît pas du tout importante. Il est là pour autre chose. Il est là pour la libération de la France et il est là pour aussi ce qui apparaît à toutes les puissances coloniales de l'époque. La fin de la guerre, de resserrer la vis des empires coloniaux, c'est-à-dire que dans tous les lieux où des mouvements nationalistes se sont développés, il faut mettre le holà à ces mouvements nationalistes et il faut être extrêmement vigoureux, sinon extrêmement violent. Donc ça se traduit en Algérie par vraiment le rejet de toutes les propositions visant à aller vers une forme d'indépendance. Ça se traduit aussi de façon beaucoup plus violente par la répression des émeutes de Sétif et de Guelma du 8 mai 1945, qui sont sanglantes et qui impliquent à la fois l'armée et des milices populaires. Mais ça se traduit en même temps dans d'autres pays. C'est pas du tout un contexte particulièrement algérien. En même temps qu'on réprime comme ça en Algérie, par exemple, on bombarde dans les mandats de Syrie et du Liban des mouvements de grève et des mouvements de protestation visant à obtenir l'indépendance. Donc on est vraiment c'est l'acteur, si vous voulez, d'un resserrage de vie, c'est un réaffermissement de l'empire qui a lieu dans un contexte international qui est celui de la fin de la guerre, qui est aussi celui de la compétition avec les autres puissances coloniales. C'est-à-dire que par exemple en Syrie et au Liban, un des enjeux c'est d'éviter que les Britanniques ne prennent plus de pouvoir que la France. Et donc dans ces luttes d'empire, le but c'est vraiment de réaffermir la domination coloniale.
Alors sachant que parfois il faut faire attention à la concordance des dates, quand il arrive, quand il revient en juin 58, il revient juste après le putsch d'Alger du 13 mai 58. Donc est-ce que là aussi, aux yeux des Algériens, ces deux événements sont intimement liés? Et au fond, s'il est là et s'il peut y rester, c'est grâce à cette France-là, en fait, celle de l'Algérie française et celle qui voulait absolument conserver cette Algérie-là.
Oui, il arrive sur une situation qui est assez complexe, qui est en même temps une situation en France et une situation en Algérie, c'est-à-dire qu'on a de la protestation, de la crise politique qui ont lieu en métropole, le discours sur l'instabilité de la 4e République, la nécessité d'avoir plus de stabilité, le mécontentement, les mouvements de grève notamment et de manifestations notamment dans la police. Et ça, ça se combine avec un mouvement algérien, beaucoup plus immédiatement mobilisable dans, dans la rue, et notamment le grand mécontentement de ceux que plus tard on va appeler les ultras de l'Algérie française, ceux qui sont vraiment prêts à prendre les armes pour défendre l'Algérie française. Et on a des négociations, des rapprochements entre des réseaux gaullistes, où tous ne sont pas sur ces positions Algérie française, mais certains le sont, des réseaux d'extrême droite, des réseaux des ultras de l'Algérie française, qui font advenir le 13 mai 58 et qui font se produire, si vous voulez, ce coup d'État. Donc il arrive dans une situation où il représente une promesse pour les Français d'Algérie. Là encore, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que peut-être il sait déjà que ça va être l'indépendance. Ouais. Mais de fait, dans la réalité, il est l'homme effectivement qui conduit la guerre à durer, parce qu'au moment où il arrive au pouvoir en 1958, il arrive au pouvoir. Du côté algérien, on a un gouvernement provisoire à la tête duquel se trouve Farhat Abbas. Et donc, on aurait en fait les gens qui pourraient négocier d'emblée. Et c'est le moment où la guerre devient la plus violente. Il faut dire vraiment que dans cette période-là, des dernières années de la guerre, on a des grandes opérations militaires, les opérations Châle, qui visent vraiment à nettoyer les maquis de tous les maquisards, ça veut dire les tuer, hein, ça veut dire mener la guerre pour nettoyer ces maquis entièrement, et aussi pour suffoquer les maquis. Un des objectifs, c'est d'empêcher le soutien de la population, et un des effets de ces dernières années de la guerre, c'est le déplacement forcé de un quart de la population qui est mise dans des camps. En 1962, on a un quart de la population algérienne qui est mise dans des camps. Donc c'est vraiment une période d'une guerre non seulement longue, mais d'une toute autre ampleur de ce qu'elle a été dans les premières années.
Malik Haral, vous dites que il avait, au fond, il était indifférent au nationalisme algérien à l'époque. Ou est-ce qu'il ne l'a pas vu, ne l'a pas senti, n'a pas voulu, a conservé une espèce d'attitude paternaliste qui était celle de l'époque? Elle est où la vérité là-dedans, à votre avis?
Écoutez, je repensais à un témoignage qui est celui de Raymond Aubrac, qui s'est trouvé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Alger, et qui dans ses mémoires dit: on n'a pas vu ce problème, ça ne nous a pas ça ne nous a pas intéressé, c'est-à-dire l'Algérie était invisible à nos yeux. Donc on a cette idée-là que au moins à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un tout autre enjeu, hein, qui est celui de rétablir l'Empire. Ensuite, pendant la guerre, on a des dynamiques qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont celles, effectivement, d'une pression très forte de la population coloniale. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre tout sur le compte, si vous voulez, de la population coloniale, de ce qu'on a appelé plus tard les pieds noirs. Il y a aussi vraiment une politique française qui laisse des traces et qui fait de De Gaulle, pour beaucoup d'Algériens de ces générations-là, qui fait de lui le visage de la guerre. Il est rentré dans beaucoup de chansons populaires, notamment dans la poésie des femmes et dans les vers ou les slogans que les gens se racontent à la fin de la guerre. Il y a une chanson d'un chanteur qui s'appelle Jafar Beck.
Et bien alors justement, vous me l'offrez sur un plateau, parce que vous nous l'avez tweeté, cette chanson. On va en écouter un extrait, vous allez me raconter ce qui se passe là. Allez-y.
Ah ben c'est parfait. يا دغول وبركات من الخطاب جزائر تملينا
يا دغول وبركات من الخطاب جزائر تملينا. Malik Haral, qu'est-ce qu'il dit en fait, Jafar Beck? On entend bien De Gaulle évidemment, mais c'est quoi le message?
Alors là, c'est la thématique de la toute fin de la guerre, chantée par Cheikh Harimiti, Et l'idée, c'est l'Algérie est en train d'être gagnée par les Moudjahidines. Ben Bella, le futur président de l'Algérie, est en train de gagner l'Algérie. Et on dit à De Gaulle que tout est fini et que Haoud el-Meria, c'est-à-dire on pourrait traduire par c'est le moment de rentrer chez ta femme, il n'y a plus rien à faire. Vous avez d'autres chansons, par exemple, où on se moque de son nez, où on se moque de son physique. Mais en gros, on lui dit toujours Haoud la gare, retourne à la gare, c'est-à-dire rentre chez toi. Jazair, Marahish, Dialek, elle n'est pas à toi. Et les Moudjahidines sont en train de la reprendre. Donc, De Gaulle n'existe plus, si vous voulez, pour les jeunes générations qui pourtant se souviennent bien de la guerre, mais à travers ses poésies populaires ou ses chansons, on se rappelle que vraiment c'était à lui qu'on avait envie de s'adresser de façon un peu défiante pour s'encourager, pour continuer le combat et pour lui dire, comme dans la chanson de Jafar Beck, on ne déposera pas les armes.
Malika Rahal, vous l'avez évoqué, effectivement, vous le disiez à l'instant, il y a toute cette génération qui a connu l'indépendance, qui a cette vision de De Gaulle, qu'il a vraiment vécu comme en tant qu'adulte. Et puis, il y a la génération qui vient après. L'Algérie, c'est un pays extrêmement jeune. Est-ce que l'image, au fond, s'est diluée ? Ce que j'entends quand vous me parlez, c'est que c'est resté effectivement un peu dans la culture populaire grâce à quelques chansons qui restent. Mais au fond, c'est comme si, d'une génération à l'autre, on ne s'était pas embarrassé de lui, en fait, en Algérie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il a été la figure de la guerre à un moment donné. On a conservé le souvenir de la guerre et le Hirak de l'année dernière, le mouvement populaire qui a commencé en 2019, a montré que vraiment le souvenir de la guerre et des héros était très fort. Mais par contre, l'impérialisme avait un nouveau visage, il a un visage d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en train de s'élever contre des choses du passé, qui seraient De Gaulle, mais on est en train de s'inquiéter de la question de l'intervention militaire, par exemple, en Libye. On est en train de s'intéresser et de s'inquiéter de la politique de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis vis-à-vis du Maghreb d'aujourd'hui, mais dans des figures qui sont des figures plus actuelles et pas des figures du passé.
Tout en ayant quand même toujours cette idée que la France se mêle des affaires algériennes alors qu'elle ne devrait pas, on l'a vu, on le voit aussi, y compris d'ailleurs sur la génération toujours au pouvoir, malgré les manifestations qui reprochent une forme d'ingérence. On l'a vu pendant l'histoire de ce documentaire algérien. Donc on a l'impression quand même que les phrases qui vont en direction de la France, en fonction de la génération qui les prononce, disent des choses complètement différentes.
Oui, et ces choses-là ne sont pas complètement résolues, effectivement. Parce qu'on est dans une actualité qui n'est pas du tout résolue, c'est-à-dire que la question de la politique des pays d'Europe et en particulier de la France vis-à-vis du Maghreb, elle pose des problèmes immédiats. C'est la question de l'intervention en Libye, qui est aujourd'hui un pays pratiquement sans État et qui rend toute la région très instable. Donc c'est des questions très très vivantes et du coup les gens sont particulièrement préoccupés. Alors parfois certains le sont d'un point de vue surtout symbolique, mais je pense que ces préoccupations pour les symboles qui ont l'air parfois un petit peu contradictoires cachent une vraie préoccupation qui est celle de la politique des pays qui peuvent souhaiter intervenir au Mali d'un côté, en Libye de l'autre, et une très grande jalousie de la souveraineté réellement.
Il y a un grand débat en France, ça n'a échappé à personne, sur le déboulonnage au sens propre du terme, parfois d'ailleurs, de la mémoire coloniale au fond, un peu partout, alors avec ou sans statut, puisque effectivement des traces physiques de De Gaulle, évidemment en Algérie il n'y en a plus, mais comment ce débat-là que nous avons, nous, sur ce passé colonial, comment est-il reçu en Algérie ? Là encore, on a l'impression que le discours de ceux qui sont en France est très différent du discours de ceux qui sont en Algérie.
Alors, vous avez des réactions un petit peu différentes selon les milieux et selon le niveau de connexion qu'on a avec les débats qui sont en France. C'est-à-dire, évidemment, dans des milieux qui sont un peu francophones et qui lisent la presse, peut-être qu'on se préoccupe, peut-être qu'on répond davantage ou qu'on se sent un peu plus concerné. De façon générale, c'est pas des questions qui intéressent énormément parce que, d'une certaine façon, le fait d'enlever les traces coloniales de l'espace public, bah ça en Algérie, ça a été fait
tout de suite.
À un certain point. Il va toujours rester quelque chose de l'époque coloniale. Elle a été longue, elle a duré plus de 130 ans. Mais on a déjà enlevé tout ça d'Algérie. Et vous avez même un certain discours qui vise à dire, mais après tout, c'est leur histoire. Je veux dire, ils se débrouillent avec avec ce passé et ces questions ne nous concernent pas directement. Là où il y a de la préoccupation et de la réponse, c'est dans les espaces où il y a de l'échange et notamment linguistique, où ces questions-là peuvent se poser. Mais ça demeure, je pense, des questions des milieux minoritaires qui réagissent à ces débats tels qu'ils sont posés en France.
Merci beaucoup Malik Haral pour nous avoir rappelé la place de Gaulle dans cette journée de Gaulle 2020, sa place dans l'histoire algérienne. Merci vraiment mille fois, je le rappelle, je le dis maintenant, tout à l'heure dans le téléphone sonne, on poursuivra cette journée, on va parler de la 5e République et de ce qu'il en reste aussi et pourquoi au fond est-elle aussi solide alors qu'elle a été taillée apparemment dans le costume du général de Gaulle. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir dans Un jour dans le monde, c'est le bruit du monde et ça se passe à Dakar qui n'a que 70 morts du Covid mais qui ne déconfine pas aussi peu, ce qui fait souffrir le tourisme. Nous retrouverons Clémence, notre cyclotouriste qui est en Argentine. Elle a confié son journal sonore à Caroline Gillet. François Bunel a lu un livre américain sur les enfants perdus de la politique migratoire. Et puis Jean-Marc Four, dans Le Monde d'après, vous dira preuve à l'appui que les réfugiés sont de plus en plus nombreux et qu'ils ne rentrent pas chez eux. Ne bougez pas, le tour de la planète, ce n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni. Voici Georgia Smith. Kiss me in the morning.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you kiss me in the morning, oh, you better close the night. And I wake up with this feeling in my body.
Georgia Smith sur France Inter. Kiss me in the morning. Le bruit du monde ce soir est au Sénégal. Le Sénégal qui ne compte que 70 morts du coronavirus, mais l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur. Depuis plus de 3 mois, les frontières sont fermées. Le tourisme est à l'arrêt alors qu'il représente 10% du produit intérieur brut. Le temps est long et le reste, c'est William Delesseux qui raconte depuis Dakar.
C'est un grand bâtiment ocre face à la place de l'Indépendance. En plein cœur de Dakar, l'hôtel Pullman Teranga est une institution. L'établissement porteur de 5 étoiles appartient au groupe français Accor. Il est fermé depuis fin mars, date de départ des derniers clients. À l'intérieur, toutes les lumières sont éteintes. Le bâtiment est vide. Antoine Payan, directeur de l'hôtel.
C'est terrible de le voir comme ça. Là, ça fait 2 mois qu'on se promène quotidiennement à l'intérieur pour venir vérifier que tout va bien, dans le noir. Et c'est assez douloureux quand même de passer tous les jours dans ces conditions-là.
On est devant la réception de l'hôtel. Évidemment, il n'y a plus personne. Des bâches ont été mises sur les meubles. C'est la première fois que vous voyez l'hôtel comme ça et le restaurant comme ça?
Exactement. C'est la première fois que l'hôtel est complètement arrêté.
Une lueur d'espoir, l'hôtel, cette semaine, a commencé à se préparer pour sa réouverture prévue ce week-end.
On espère que l'activité va reprendre quand même assez rapidement, surtout cet automne, le plus vite possible, et dans des conditions, on ne va pas dire comme avant la crise, mais qui soient quand même beaucoup plus normales que ce qu'on en vit actuellement.
L'hôtel rouvre, mais les frontières restent fermées. Quant aux vols commerciaux venant notamment de France, pourvoyeurs d'un touriste sur deux, ils sont toujours interrompus en juillet et en août. Le Pullman risque de rester presque vide encore quelques semaines. C'est toute l'économie du pays qui subit les conséquences de la crise sanitaire. Le secteur informel, qui produit à lui seul 60% de la richesse au Sénégal, est durement touché. Il s'agit des commerces et des emplois qui échappent au recensement officiel et aux statistiques. Le marché Sandaga, de l'autre côté du centre-ville, est d'habitude très fréquenté. Ce matin, les rues commerçantes sont quasi désertes. L'incitation à rester à la maison, comme le couvre-feu en soirée, ont des conséquences sur les revenus de toutes les échoppes, comme dans la boutique d'Aliou Cissé.
On vend des produits cosmétiques, des parfums, des laits de corps, des déodorants, tout ce qui est cosmétique. Et là, quoi. Avant le coronavirus, ça marchait bien, mais à cause du coronavirus, ça marche lentement, quoi. Nos recettes sont très faibles pour l'instant.
Est-ce que pour votre commerce, vous attendez un soutien de la part de l'État? Est-ce que vous aimeriez bien un soutien de l'État?
Bien sûr. Si on peut avoir ça, on va prendre. Hein.
Les prévisions de croissance du Sénégal ont d'ores et déjà été revues à un peu moins de 3% contre plus de 6% avant le début de la pandémie. Le coup d'arrêt infligé à l'économie sénégalaise touche avant tout le secteur informel, confirme François-Joseph Cabral, enseignant-chercheur à l'université de Dakar et économiste.
Ce sont des secteurs qui sont drainés par une activité familiale à petite échelle, mais très intensive en main-d'œuvre, mais en main-d'œuvre non qualifiée. Alors, si ces secteurs subissent le contre-coup de la crise, il va sans dire qu'il n'y aura plus de distribution de revenus comme avant pour ces catégories-là. Il faut s'attendre à ce que la pauvreté augmente et que les inégalités se creusent.
Pour soutenir les secteurs en difficulté, l'État a prévu de mobiliser et de redistribuer 1 000 milliards de francs CFA, l'équivalent d'1,5 milliard d'euros, un fonds pour tenter d'aider l'économie à repartir après la crise.
William Delesseux à Dakar, merci beaucoup William. Et revoici Clémence qui a confié son journal sonore à Caroline Gillet. Nous avons fait connaissance hier avec cette jeune femme qui a stoppé son tour à vélo dans le nord de l'Argentine, coincée par le virus, avec son compagnon Facu. Elle a passé plusieurs semaines confinée sous une tente. C'était fin mars, elle avait 29 ans, entre-temps elle a eu 30 ans. Et voilà un florilège des dernières nouvelles de Clémence.
Crees que tomaste la decisión correcta? En quedarte en Argentina.
Si je pense que j'ai pris la bonne décision de rester en Argentine et de passer cette quarantaine en Argentine, oui.
Je suis ici, avec Facu, dans notre jardin verger de confinement. Au moins jusqu'au 13 avril, la date décrétée à ce jour de la fin de la quarantaine en Argentine.
Ce doux bruit de machine à laver, je ne l'avais pas entendu depuis très 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 longtemps. Et un autre bruit que j'ai pas entendu depuis longtemps, attention, c'est surtout une température de l'eau chaude. Incroyable. Ça y est, nous sommes arrivés à la maison des parents de Facu. Après un périple assez anxiogène, assez stressant, plus de 1800 km. Donc c'est beaucoup beaucoup de bonheur d'être là, d'être dans une maison, d'être entouré de proches. Je désinfecte les affaires avec de l'alcool liquide, on les passe dans les pièces d'à côté et ensuite on va pouvoir redispatcher tout ça. Une chance chanson du groupe de musique El Plan de la Mariposa, une chanson qui s'intitule Día Siete, puisqu'ils l'ont enregistrée en quarantaine. C'est une chanson sublime qu'on écoute en boucle depuis sa sortie, depuis quelques jours avec Facu. En gros, ça veut dire je sens une peur qui me rapetissit, une peur qui m'inonde. Vamos? Ok. Bon, sortie des chiens. On ne sort jamais aussi tôt d'habitude. Mais comme on a une journée assez chargée en livraison de noix, puisque nous nous sommes lancés dans le commerce de noix, eh bien on les sort plus tôt que prévu. 21h25 ici en Argentine. Un petit bruit de cigarette que j'allume. J'ai appris ce soir que la quarantaine était prolongée jusqu'au 12 juillet. Mais quand est-ce que ça va se terminer, quoi? Est-ce qu'il va y avoir une fin à ce truc-là? Quand je vois qu'en France... je crois que je suis envieuse, en fait. C'est horrible de dire ça, mais je suis jalouse de mon frère qui fait du vélo, de mes copines qui se retrouvent, qui boivent des coups. J'arrive même pas à écrire. Donc là, ça devient long, si c'est un journal intime et collectif. Dans les journaux intimes, il y a aussi des moments, et surtout, je crois, des moments où, un peu tristes ou un peu nostalgiques. Donc voilà, c'était un petit message du soir. En tout cas, embrassade de Cipolletti.
Et on l'embrasse aussi, Clémence, on l'embrasse, on la remercie vraiment beaucoup pour son témoignage. Vous retrouvez des photos, des vidéos de son voyage sur la page de Full Continental sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux de l'émission. Merci beaucoup à Louise Cognard, merci à Meryl Thomas pour leur aide sur tout ce projet. Vraiment, la semaine prochaine, qui sera d'ailleurs la dernière semaine, on va retrouver tous ces gens que vous avez croisés ici et là ces derniers mois pour prendre de leurs nouvelles. Et ce sera formidable, Indizara, Beautiful Tango, ça nous laisse un tout petit peu en Argentine.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the slow makes me feel like
Tango et Beautiful Indy Zara aussi sur France Inter. François Bunel est là.
Le 18-20.
Bonsoir François Bunel.
Bonsoir Fabienne, bonsoir
ce
à tous.
Bonsoir dans votre besace François. Les enfants sont les grands perdants de la crise migratoire aux États-Unis. Un livre raconte de quelle façon ils sont devenus aujourd'hui des enjeux, aussi bien pour les mafias que pour les polices d'État. Ce livre est signé Valeria Luiselli et il vous a enthousiasmé.
Ben oui, c'est un livre totalement inclassable, ça j'adore. C'est à la fois un essai, un document, un roman, une autobiographie. Il s'intitule ce livre « Archives des enfants perdus » et il a imposé son auteur, Valeria Luiselli, comme une figure incontournable de la nouvelle génération d'écrivains engagés aux États-Unis l'année dernière. Les enfants perdus, c'est le nom qu'on donne, vous savez Fabienne, dans les contes, aux orphelins, plus exactement aux enfants dont personne ne veut, ni les parents qui ne peuvent pas les garder ou ne veulent pas les garder, et les expédient vers d'autres contrées, ni les proches qui ne savent que faire de ces gamins habitués à être rudoyés par la vie. Les États-Unis ont créé, avec Hollywood et les séries, une version quand même un peu bisounours des enfants perdus, alors que la réalité est tout autre, et particulièrement depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche où, comme vous le savez, les pouvoirs dévolus aux policiers pour contrôler les migrants dans les États frontaliers avec le Mexique ont été renforcés.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre dont vous nous dites qu'il est inclassable et tient à la fois de l'enquête et du roman ?
Eh ben, à dire vrai, la partie enquête est de loin la plus intrigante et la plus dérangeante. Valeria Luiselli part de sa propre histoire. Alors, elle fait partie de ces trentenaires immigrés, précaires, mais qui finissent toujours par s'en sortir, et notamment dans les grandes villes comme New York. Elle écrit, mais surtout, elle gagne sa vie en enregistrant les sons de la ville. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré son compagnon, qui est un preneur de son de radio, passionné par l'histoire des Apaches, et qui un beau jour décide d'embarquer toute cette jolie petite famille recomposée dans un road trip depuis New York jusqu'à l'Arizona, qui est le territoire des Apaches, mais sans trop savoir ce qu'il va chercher. Alors pour Valeria, il en va tout autrement. Elle a été bouleversée par les rares témoignages d'enfants de migrants tentant de passer la frontière pour venir s'installer aux États-Unis. Savez-vous qu'il y a 2 ans encore, plus de 80 000 enfants sans papiers venus du Mexique et des pays voisins ont été détenus à la frontière sud des États-Unis. Il existe, Fabienne, de véritables camps pour enfants, et notamment au Texas. On ne sait rien ou presque des conditions de détention, car les journalistes n'y sont pas admis dans ces camps, et puis les enfants n'en ressortent que pour repartir dans leur pays. Tout ce que l'on sait, à partir des très rares interviews obtenues, c'est que ces enfants fuient des conditions de vie indescriptibles, la maltraitance, les violences systématiques, des pays où les gangs ont fondé de véritables états parallèles et imposé leurs propres lois. Ils sont venus chercher une protection aux États-Unis, retrouver une mère, un père, ou alors d'autres membres de la famille qui ont émigré avant eux. Bref, ils ne courent pas après le rêve américain, comme on le dit habituellement. Ils cherchent juste un moyen d'échapper à leur cauchemar quotidien. Mais il y a une autre chose qui bouleverse Valeria Luiselli. C'est la confession d'une Mexicaine parlant à peine l'anglais qu'elle rencontre juste avant son départ et qui attend ses 2 filles de 8 et 10 ans. Elles ont quitté le Mexique, mais on a perdu leurs traces. Nul ne sait où elles se trouvent. Ce road trip familial jusqu'à la frontière mexicaine devient alors le prétexte pour Valeria Luiselli à une enquête passionnante sur le sort des enfants perdus. Comment documenter la vie de ces enfants qui ne parlent pas anglais, qui traversent le territoire comme des fantômes, redoutant d'être pris et renvoyés chez eux, ou bien capturés par des mafias qui les exploitent, les prostituent ou les vendent.
Alors oui, comment faire, comment mener l'enquête, sachant qu'il y a d'un côté le silence des autorités américaines, et puis de l'autre, la clandestinité, donc vous le disiez, de ces enfants qu'il est presque impossible d'approcher en fait.
Ben oui, pas simple. La solution, c'est de partir avec vos propres enfants. Valeria Luiselli en a 2. Des ados qui fantasment sur les grands espaces et puis qui vont fausser compagnie à leurs parents dans un motel pour partir jouer les explorateurs en plein désert, plongeant les parents dans le plus grand désarroi et découvrant une bande d'enfants perdus. Ici, Les enfants perdus sont à la fois ceux de la narratrice, Valeria Luiselli, et puis ces gamins clandestins dont on découvre qu'ils voyagent sans argent, sans bagages, sans repères, sans but réel, sur le toit des trains, parfois avec un numéro de téléphone brodé sur leurs vêtements, et qui reproduisent entre eux le monde des adultes, c'est-à-dire soit la guerre civile, soit la grande fraternité des réprouvés. Toute la force du livre de Valeria Luiselli tient aux mots, au vocabulaire. Et là, Fabienne, où les journalistes parlent de crise migratoire, elle parle, elle, de trajets individuels. Mmh. Là où les autorités policières, et politiques d'ailleurs, parlent de sans-papiers, d'étrangers, aliens en anglais, elle parle, elle, de réfugiés ayant juridiquement droit à une protection quand ils sont mineurs. Ils ne viennent pas voler le pain des Américains, ils fuient des guerres civiles dont les Américains ne savent même pas qu'elles existent juste à leur porte. Valeria Luiselli refuse pourtant d'exploiter la tristesse et le désespoir. Elle ne transforme jamais la vie de ses enfants en marchandise médiatique. Elle écrit ce qu'on pourrait appeler un roman vrai, qui replace ses enfants perdus dans ce que tout le monde peut comprendre, Fabienne, nos propres mythologies familiales. Ce qui fait la force de ce livre, c'est que Valeria Luiselli se pose sans cesse cette question, tout en refusant de céder au sensationnalisme. Que se passe-t-il si des enfants sont livrés à eux-mêmes? C'est une question que tout le pays, aujourd'hui et pendant 4 mois, pose à Donald Trump.
Archives des enfants perdus, François, signé Valeria Luiselli, donc, et c'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, beaucoup, à jeudi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, comme tous les soirs. Bonsoir à vous, Jean-Marc
Bonsoir
Four.
Bonsoir à tous.
Le HCR, Jean-Marc, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, publie aujourd'hui son rapport annuel sur les mouvements de population dans le monde. Les chiffres sont saisissants. Et pour vous, on serait bien inspiré de ne pas oublier cette question des réfugiés et des migrants que l'épidémie a relégué au second plan. C'est votre monde d'après.
Alors, le titre du rapport est austère. Hein. Tendance globale sur les personnes déplacées en 2019. Mais le contenu, 84 pages, est édifiant. C'est une mine d'or d'informations. Le lien, bien sûr, sur le site de France Inter. 4 constats sautent aux yeux. 1. Les réfugiés déplacés n'ont jamais été aussi nombreux. Près de 80 millions dans le monde, plus que la population française. Un record historique, le double d'il y a 10 ans. C'est la conséquence de conflits qui n'en finissent plus, par exemple en Afghanistan, en Syrie ou en Birmanie. 2. Ces réfugiés sont souvent des enfants, plus de 30 millions, 40% du total. Ça fait écho à ce que vient de nous raconter François Bunel. 3. Les réfugiés ne sont pas là où vous le croyez. Pour plus de la moitié, ils sont déplacés dans leur propre pays. Et pour 85% d'entre eux, ils sont ensuite réfugiés dans les pays voisins ou souvent dans des pays pauvres en voie de développement ou des pays qui font office de sas, la Turquie, la Colombie, le Pakistan. À l'inverse, ils ne sont pas dans les pays riches, à une exception près, l'Allemagne. Enfin, 4, l'an dernier, il n'y a eu que 385 000 retours au pays, un nombre en nette diminution. Autrement dit, 99,5% des réfugiés ne rentrent pas chez eux. Conclusion simple, il faut changer de logiciel sans doute, partir du principe qu'ils vont vivre là où ils sont aujourd'hui.
Et alors, l'épidémie a changé quelque chose ou pas ?
Oui, elle a un double impact. Le premier a été immédiat, les mouvements de population ont nettement ralenti, voire se sont arrêtés net. Conséquence directe des fermetures de frontières en série partout dans le monde. Un exemple, seulement 23 000 arrivées sur le sol européen, en Espagne, en Italie, en Grèce, via la Méditerranée depuis le 1er janvier, c'est très peu. Mais c'est un ralentissement provisoire et sans doute illusoire. Deuxième impact, c'est maintenant, les réfugiés sont les premières victimes des conséquences de l'épidémie. Là, je parle pas du sujet sanitaire, même si dans certains camps de déplacés, le virus peut faire des ravages. Je parle surtout des conséquences sociales. Dans le grand plongeon économique en cours, les réfugiés perdent toutes leurs ressources et sont les premiers à les perdre. Par exemple, les Syriens réfugiés au Liban. Conséquence suivante, les transferts d'argent effectués par ces migrants vers leurs familles restées au pays sont en chute libre, moins 20% selon la Banque mondiale. Et dans certains pays, ces sommes peuvent représenter jusqu'à 10% de la richesse nationale. Donc, par effet en chaîne, la pauvreté s'accroît partout.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que tout ça peut rapidement très mal tourner.
Oui, ce sont des bombes à retardement. Ce sujet des réfugiés va revenir, c'est imparable. Pour l'instant, on fait le choix, en Europe en tout cas, de ne pas le regarder. On a d'autres soucis. Et du coup, le nouveau pacte migratoire qui faisait partie des grands projets de la nouvelle Commission européenne est repoussé au calende grec. Même l'Allemagne, qui prend la présidence de l'Union dans 2 semaines et qui est proactive sur ce sujet, ne semble pas décidée à relancer le débat, vu l'ampleur des désaccords au sein de l'Union. Seulement voilà, pendant qu'on regarde ailleurs, le niveau monte dans les cocottes minutes, surtout dans ces pays de transit dont on parlait, ces pays de transit pour les réfugiés, ces pays à nos portes, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, qui plus est en guerre. La dégradation économique peut être telle dans tous ces pays, sur l'emploi, sur le commerce, que de nouveaux mouvements de population semblent inévitables. On voit déjà des tensions, par exemple, apparaître à la frontière gréco-turque. Plus on attendra, plus le sujet va devenir compliqué entre la gestion des anciens réfugiés déjà présents et l'accueil des nouveaux qui vont chercher à venir. Pas simple, mais la politique de l'autruche n'est pas la meilleure.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, c'est le journal de 19h avec Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne qui poursuit la journée de Gaulle 2020 sur France Inter. Merci de partager votre soirée avec nous. Ne bougez pas.